France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En mai 68, Colette Besson aurait pu monter à Paris pour jeter quelques pavés et édifier des barricades au Quartier Latin. Au lieu de cela, profitant du temps libre que lui offrait la grève quasi générale, elle préféra prendre de l'altitude en plantant sa tente de camping à Font-Romeu. Durant 3 mois, elle s'y prépara intensivement à l'épreuve du 400 mètres qu'elle devait courir en octobre aux Jeux de Mexico où l'oxygène s'annonçait rare. En 1997, la préparation et la course qui firent d'elle une championne olympique, Colette Besson les racontait sur Radio Bleu à Joël Spindel et Denis Soula dans un numéro de leur excellente « Légende du sport ». Riche de ses archives, cette émission, à laquelle participait le journaliste de l'équipe Robert Parienté, faisait revivre ce qui fut l'un des grands moments des JO de Mexico, la victoire inattendue au terme d'une finale magnifique d'une grande championne, Colette Besson, l'une des plus enthousiasmantes médailles d'or de l'histoire de l'athlétisme féminin. Une championne olympique qui, avant de disparaître bien trop tôt, aura consacré beaucoup de son temps à la lutte contre le dopage. La légende du sport, Colette Besson, première diffusion sur Radio Bleu, le 24 août 1997.
La légende du sport, Denis Soula, Joël Spindel.
Colette Besson, 52 secondes juste, nouveau record olympique et vous le savez, record d'Europe également. Colette Besson reçoit en ce moment même sa médaille d'or. Elle reçoit également un rameau d'olivier qui vient d'Olympie et qui est un don à tous les médaillés en or des Grecs. Et Colette Besson maintenant se retourne vers la tribune côté opposé pour saluer les quelques 70 000 spectateurs qui sont là. Deuxième board, Grande-Bretagne, 52 secondes, 1/10. Et Colette Besson, là, regarde avec le sourire sa voisine, l'anglaise Bord, ou tout au moins. Voilà, elle lui serre la main maintenant. Colette Besson a revêtu le survêtement de l'équipe de France, un survêtement bleu avec un liseré blanc et rouge. Et dans un instant, vous allez entendre la Marseillaise retentir au stade olympique de Mexico. Colette Besson a un sourire extraordinaire, elle a un petit nœud rouge dans les cheveux. Elle a gardé son numéro dans le dos, numéro 117, et je pense que ce numéro, elle le gardera longtemps, longtemps, longtemps. Et dans un instant, au mât central, derrière le tableau lumineux, va monter le drapeau tricolore. Ce n'est plus qu'une question de seconde.
Les Jeux Olympiques de Mexico ont débuté il y a à peine 4 jours. Et déjà la France entière est émue jusqu'aux larmes par les exploits d'une de ses athlètes, Colette Besson. Mais avant de connaître la consécration olympique, cette championne peu ordinaire a emprunté un itinéraire hors des sentiers battus.
Nous l'avons rencontrée dans la cour de récréation d'un collège parisien où elle enseigne l'éducation physique et sportive.
Depuis ma plus jeune enfance, eh bien, j'allais courir sur la plage avec mon frère, mes camarades. Et puis, on s'est aperçu que je n'étais pas facile à rattraper. Et puis comme ça, au collège, j'ai développé mes qualités.
Est-ce qu'on peut dire que la rencontre avec Yves Durand-Saint-Omer, c'est le déclic pour vous ?
Au collège, mon professeur d'éducation physique m'avait dit « Mademoiselle Besson, vous avez beaucoup de qualités, il faut aller dans un club » et c'est là qu'elle m'a envoyé voir ce monsieur qui s'occupait d'un club à Royan, les Goélands de Royan. Et progressivement, eh bien, c'est lui qui m'a orienté vers le 400 mètres et qui m'a donné l'envie, le goût, la passion. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup.
Quelles étaient ses conceptions de l'athlétisme et de l'entraînement ?
Quand Durand Saint-Omer disait « pour faire du 400 mètres, il faut partir vite, tenir et terminer encore le plus vite possible », il avait raison. Quand il a dit en 1970 « une femme fera un jour moins de 50 secondes », tout le monde rigolait. Bon, maintenant, il y en a qui font 48 et un record du monde à 47,60.
Le second témoin de cette aventure, c'est Robert Pariente. Lors des JO de Mexico, en 1968, il était chef des informations du quotidien L'Équipe.
On savait que c'était un grand talent. On savait aussi que elle était entraînée par un entraîneur qui avait des méthodes assez révolutionnaires pour une femme. En fait, Colette Besson était la première femme française à s'entraîner en fonction d'une distance nouvelle pour les femmes, le 400, et en empruntant aux hommes la manière dont les hommes préparaient la distance.
S'il y a eu cette préparation un petit peu spéciale pour Mexico, c'est parce que déjà en 66, ayant réalisé le quatrième temps européen sur 400 mètres, sélectionné pour les championnats d'Europe à Budapest, Durand Saint-Omer donc souhaitait continuer ma préparation, ce qui est tout à fait normal. Et donc je n'ai pas participé au stage de l'équipe de France. Et là, une semaine avant le départ, on me renvoie mon passeport visé, s'il vous plaît. Il était déjà visé, donc j'avais déjà pratiquement un pied dans l'avion. Et on me dit non, vous restez à la maison. Donc ça a été vraiment un choc très, très dur pour moi parce que j'avais 20 ans. J'espérais faire quelque chose de bien.
Elle n'a pas été retenue. Le couloir qu'elle devait occuper est resté vide à Budapest, ce qui a valu d'ailleurs à l'équipe une merveilleuse chronique d'Antoine Blondin, Le couloir vide, où Antoine Blondin regrettait infiniment que Colette Besson n'ait pas pu participer.
Est-ce que l'on peut considérer cette non-sélection comme une injustice ?
Vous savez, en sport, il y a des règles. Il faut se plier aux règles lorsqu'on est un athlète à l'époque amateur. L'amateurisme était encore total à l'époque. Mais une injustice, oui, parce qu'on a regretté que cette jeune fille qui approchait de la classe internationale aurait pu sans doute être finaliste à Budapest et peut-être mieux. Mais on savait que peut-être cette forme de refus de la sélectionner lui permettrait de se rebeller et de la motiver.
J'ai failli abandonner l'athlétisme et j'ai bénéficié d'un article, Le forfait de Cendrillon, et qui m'a réconforté. Mon entraîneur a dit, on a 2 ans maintenant pour préparer les Jeux de Mexico et là, prouver qu'il y a eu erreur. Et je pense que cette motivation-là a été très forte parce que je voulais vraiment prouver qu'on s'était trompé à mon sujet. C'est pour ça qu'on a tout mis dans notre jeu, tous les atouts pour pouvoir faire une bonne préparation et réussir à Mexico. Il y a eu entre-temps les événements de mai 68. Moi, j'étais déjà enseignante dans un collège au lycée de la Réole. Le 19 mai, je me souviendrai toujours de cette date, eh bien, les collèges se sont mis en grève et le travail n'a jamais repris. Ce qui fait que moi, dès le mois de mai, eh bien, je suis partie en prospection à Font-Romeu. Mon entraîneur, sa femme, ses gamins, la tente de camping, enfin, on est tous partis à Font-Romeu. Et puis là, eh bien, on a planté une tente au camping du Menhir parce que, bien sûr, rien n'était encore prévu pour les athlètes présélectionnés parce que je n'étais que présélectionnée à l'époque. Donc j'ai eu comme ça 3 mois et demi de préparation qui m'ont permis d'arriver vraiment en super forme. Je pétais la santé, j'avais vraiment acquis une forme extraordinaire parce que je m'étais entraînée là-bas 5 heures tous les jours. C'était le traditionnel entraînement le matin. Après, il y avait la préparation du déjeuner. Il y avait bon, une légère petite sieste, partie de pétanque, etc. avec la famille. Entraînement l'après-midi. Le soir, il y avait des bains. On avait trouvé une source naturelle un peu sulfureuse dans les bas de Font-Romeu. C'était à une ville qui s'appelle Dore, D-O-R-E, et j'allais me tremper jusqu'à la taille pour récupérer des efforts. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert comme ça, en se promenant, en faisant des randonnées. J'allais faire des footings de récupération à 1000 mètres d'altitude autour du lac de Matmal. J'avais une préparation qui était au point.
Vous aviez le 23e temps mondial avant Mexico, c'est-à-dire que vous n'étiez quand même pas parmi les favorites. Et malgré tout ça, vous êtes préparé comme si vous étiez une des favorites. C'est-à-dire que c'est stupéfiant, cette préparation scientifique intensive, alors que vous n'avez pas l'ambition d'être sur le podium, peut-être même d'aller en finale olympique.
J'avais le 23e temps, mais mon objectif, c'était pas en fait une médaille, c'était pas une place, c'était un temps. Et mon entraîneur m'avait dit « tu vaux 52 secondes ». Il m'a dit, et on travaille pour faire 52 secondes. Tous les temps que je faisais à l'entraînement correspondaient à un temps de 52 secondes. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que 52 secondes suffiraient pour gagner. On pensait que 52 secondes m'ouvrirait une porte en finale, pas forcément un podium. Je pense que j'étais la seule athlète, à part peut-être les Kenyans qui vivaient en altitude, mais moi j'étais la seule athlète à avoir eu 3 mois et demi de préparation à Font-Romeu. Les 15 derniers jours, avec mon entraîneur, on avait changé mes horaires d'entraînement, mes horaires de sommeil, pour que je m'habitue au décalage horaire, parce que ça c'est important. On part au jeu seulement 10 jours avant l'ouverture officielle, donc il fallait quand même, en arrivant là-bas, être opérationnel.
Robert Pariente, Colette Besson, c'était avant tout une énorme volonté.
J'ai assisté à l'entraînement de Colette Besson aussi bien à Font-Romeu qu'à Mexico, et je dois dire qu'elle nous effrayait un petit peu. On peut rappeler une anecdote, j'étais avec Robert Bobin au stade d'entraînement de Mexico, et Yves Durand Saint-Omer, son entraîneur, lui donnait un programme qui était infiniment plus dur que celui que devaient suivre les autres athlètes français. Je me rappelle qu'elle faisait des séries enchaînées de 100 mètres en 11-6, 11-7. Départ debout, bien sûr, ce qui représente peut-être un dixième de plus avec départ dans les starts. Mais c'était déjà quelque chose d'inhabituel pour une femme. On n'avait jamais vu ça en France.
Robert Pariente, les JO de Mexico ont été des jeux particuliers ?
Les JO de Mexico, c'était d'abord la découverte de l'athlétisme en altitude, qui profitait bien sûr aux coureurs africains qui commençaient à émerger et qui venaient des hauts plateaux du Kenya ou de l'Éthiopie.
Quelle importance avaient eu les événements de mai ?
Les événements de mai étaient déjà loin derrière nous. En revanche, nous avions vécu quelques jours avant l'ouverture des Jeux le drame de la place des Trois Cultures, où il y avait eu un massacre qui avait pesé lourdement sur l'ambiance des Jeux. On s'est même demandé un moment si les Jeux pourraient avoir lieu, tant le climat était lourd, était dangereux même, à certains points de vue. Et puis les choses se sont arrangées comme elles s'arrangent souvent en Amérique latine. Les gens n'ont plus songé qu'aux Jeux à partir du moment où les champions étrangers débarquaient à Mexico et apportaient avec eux une ambiance tout à fait différente.
Un esprit de révolte souffle quand même sur ces JO.
Un esprit de révolte souffle tout de même. On va le ressentir avec les sprinters américains Tommy Smith et John Carlos, qui, lorsqu'ils montent sur le podium après le 200 mètres, remporté par Tommy Smith, brandissent un poing ganté de noir, baissent les yeux face à la montée du drapeau américain au mât central. En fait, c'était une protestation au nom du Black Power pour amener le pouvoir américain à reconnaître les droits des citoyens noirs américains au même titre que tous les autres citoyens. C'est une protestation assez forte, assez pathétique. Les deux champions américains qui ont manifesté ont été immédiatement exclus par le Comité olympique américain et par le Comité international olympique. On a même pu craindre à un moment que le Comité olympique américain retirerait les médailles remportées par les deux champions, ce qui aurait été une tragique injustice.
Colette Besson est arrivée à Mexico. Son acclimatation à l'altitude et à la ville est parfaite. Elle trouve même des supporters parmi le peuple mexicain.
Là-bas, bon, moi, j'avais la cote parce que les Mexicains m'aimaient bien. J'étais très bronzée, j'avais des cheveux longs, j'étais brune. En achetant, je ne sais plus quel souvenir, eh bien, le commerçant, voyant que j'avais un petit chouchou rouge dans les cheveux, il m'a tendu un paquet d'une douzaine de rubans en laine tressés de toutes les couleurs. Et il m'a dit, pour vous porter chance, eh bien voilà, je vous donne ce bouquet de rubans et ils vous porteront chance. Donc j'avais décidé de prendre le bleu, le rouge et peut-être le blanc. Et le jour de la finale, j'avais le rouge.
Dès les premières courses, vous avez été confiante ?
Ah oui, parce qu'en plus, je réalise 53-1. J'égale le record de France de Monique Noirot, parce que le record de France ne m'appartenait pas. Moi, ma meilleure performance était 53-8. Et mon entraîneur m'avait dit, c'est la première étape. Après, 52, c'est pour la finale. Et donc, ça m'a donné confiance pour la suite. Après ma course, eh bien, j'ai pas gambergé. J'ai couru pendant 40-45 minutes, tranquille. J'ai fait des étirements. Puis surtout, je me suis couché de bonne heure et j'ai dormi comme un bébé.
De la demi-finale, Colette Besson au micro de Daniel Potra.
Et Colette Besson, deuxième de sa demi-finale, s'est qualifiée, elle aussi, sans forcer, pour la finale du 400 mètres.
Exactement, je suis très bien. Et voyez ici, après 10 minutes de récupération, je bats déjà à moins de 100 et je récupère très bien. Pour moi, il n'y a pas de problème.
Colette, dans quel état d'esprit êtes-vous après la demi-finale ?
J'aborde la finale, mais vraiment très décontractée parce que je me dis, le plus dur a été fait, t'es là maintenant, il faut essayer d'aller se rapprocher du podium et surtout de réaliser 52 secondes.
Nous sommes le 16 octobre, le jour de la finale.
J'ai essayé mes startings. J'ai d'abord repéré dans la tribune l'emplacement où était mon entraîneur pour juste jeter un dernier petit coup d'œil vers lui, le petit coup d'œil qui va m'encourager, qui va me pousser jusqu'au bout. J'ai vu un stade qui était hyper bondé. Moi, je me trouve au cinquième couloir. C'est sûr que c'est le meilleur. L'anglaise, la favorite, elle était au premier couloir, ce qui est complètement anormal. Premier 100 mètres, elle part très vite et je l'entends remonter déjà au bout de 100 mètres et je me suis dit, mon Dieu, elle me dépasse déjà. C'était impressionnant parce qu'elle est partie vraiment comme une bombe. Ensuite, eh bien, dans la dernière ligne droite, je sentais que ça remontait. J'avais aussi derrière moi l'américaine Jarvis Scott qui avait aussi les meilleurs temps de qualification. Bon, en arrivant aux 200 mètres, je sentais quand même qu'il y en avait pas mal devant moi. Mais moi, je ne me suis pas démonté. Et c'est seulement en arrivant aux 300 mètres que là, j'ai fait le compte. J'en ai compté 4 devant moi et je me suis dit, oh, c'est formidable, je suis 5e. Et pour moi, c'était un bon résultat d'être 5e. Et puis, en attaquant cette ligne droite, là, j'ai senti un public derrière moi. Et puis là, j'ai un peu repensé à tout ce que j'avais pu faire, à tout ce que mon entraîneur avait pu me dire. Et il ne faut pas se désunir sur la fin, et pense à tes bras, à ceci. Et puis je sentais que dès que je poussais sur le sol, je sentais que ça répondait. Au niveau respiration, je n'avais pas l'impression d'avoir déjà couru 300 mètres. Je me sentais très très bien. Et puis, par contre, l'Américaine commence à se détourner. Et ça, se détourner, c'est un mauvais signe. Quand on se détourne pour voir ce qui se passe derrière, c'est qu'on ne se sent pas bien. Et là, j'ai senti qu'en trois foulées, je la remontais. Et je passe quatrième. Et puis, ça a été pareil pour la Cubaine, Aurelia Penton. Je la passe aussi au bout de 60 mètres. À 60 mètres de l'arrivée, je me retrouve. Et là, au bout de 60 mètres de l'arrivée, je me dis, c'est formidable, Colette, tu vas faire troisième. Ce moment-là de la course, je me suis dit, Colette, t'as une médaille, c'est formidable. Et j'étais prête à rester là, à me regarder courir, à me contenter de cette troisième place, tellement j'étais contente, parce que c'était quand même quelque chose de formidable. Dans les 50 derniers mètres, une autre craque devant moi, et puis je la passe et je me retrouve enfin en seconde position à 10 mètres de la ligne d'arrivée avec une Liliane Bort qui n'était pas très à l'aise, qui avait un style un peu heurté. Et puis là, dans les derniers mètres, dans le quadrillage, là, les 4 derniers mètres, déjà j'arrive à sa hauteur, je la passe, je me jette sur le fil. Je me jette sur le fil. Mais alors, je ne sais plus ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que moi j'étais au cinquième, Liliane était au premier couloir, et puis comme moi je suis restée droit devant, sans me désunir, donc je ne savais pas si j'étais première ou deuxième, enfin de toute façon ça m'était complètement égal, parce que j'étais tellement folle de joie. Puis donc alors après c'est dur après ce qui se passe, parce que on se demande ce qui vous arrive, si c'est vraiment à vous que c'est arrivé. Et puis, tant que l'annonce officielle n'a pas été faite, tant que le nom n'est pas sur le tableau, on ne doute pas, parce que bon, moi, j'étais tellement heureuse, mais on ne sait pas trop ce qui vous arrive. Et puis bon, là, j'ai rencontré Pierre Salviac, qui était le premier à me présenter un micro. Je venais juste d'arriver. Il m'a dit « Colette, j'étais devant la ligne d'arrivée, t'as gagné, c'est formidable ».
Premier mot d'une médaille d'or.
Oh, c'est merveilleux. Oh, je ne sais pas, je ne crois pas encore. C'est formidable.
Votre course, oh. Vous l'avez conduite magistralement. Un départ, bon départ. Une mi-course assez lente et puis un très bon finish, je crois.
Oui. Oh, je ne sais pas, je me sentais désolée dans ce virage. À 300 mètres. Et puis j'ai vu qu'au 120 mètres, ça allait tout seul. Oh, je ne reviens pas encore.
Avant la course, vous me disiez, je pense finir troisième.
Oui.
Maintenant.
Quand même, non. Je ne sais plus.
Monsieur Durand-Saint-Omer, vous êtes heureux. Je crois que vous êtes peut-être le plus heureux des entraîneurs maintenant.
Oui, content, très content.
C'est pas une surprise pour vous?
Une surprise, si. On ne gagne pas un titre olympique tellement facilement. Mais enfin, je savais quelqu'un très bien.
Colette Besson, quand vous avez entendu la foule se lever et crier si fort...
Ça m'a donné des ailes de sautation dans cette ligne droite. Je me sentais bien, mais bien. Mais je me remonte tout, c'est pas vrai. Oh, j'étais bien.
C'était facile?
Oh oui, vraiment, je crois pas avoir fait 52. J'ai couru ça comme mes séries, exactement.
Merci. Voilà, vous avez eu en direct les premières impressions de la médaille d'or française.
Et maintenant, un coup d'œil au tableau lumineux. Voici le résultat officiel de la finale du 400 mètres. Claude, si vous voulez bien noter, apparaît au tableau. 400 mètres, mujeres, final, resultado. Eh bien, la meilleure des mujeres du monde sur 400 mètres, eh bien, c'est Colette Besson.
Colette Besson, quand on monte sur la plus haute marche du podium, quand on entend la Marseillaise et qu'on reçoit la médaille d'or, qu'est-ce que l'on ressent?
Oh, c'est terrible. Vraiment, j'étais très, très touchée, très, très émue. Et...
Je vous ai observé de près, vous avez pleuré un moment.
Ah oui, sans arrêt.
Alors maintenant que vous êtes médaille d'or, que vous êtes sollicité de toutes parts, est-ce que ici à Mexico, loin de chez vous, vous pensez quand même à la France?
Ah oui, je pense à ma famille, à tout le monde, à mon grand-père qui sûrement fout de joie, à la femme de mon entraîneur qui a fait beaucoup de sacrifices, elle aussi.
Qu'avez-vous envie de leur dire à l'instant même?
Leur dire que je suis heureuse et qu'il me tarde d'être près d'eux.
Robert Pariente, c'était une surprise, une telle performance?
De l'avoir arrivé en finale en réussissant de très loin son meilleur temps n'a pas été une surprise, parce qu'on savait que ses tests d'entraînement étaient remarquables. Mais ensuite, en finale, l'avoir arrivé à ce niveau-là, alors que son meilleur temps était battu de l'ordre de 2 secondes, c'était tout de même assez inattendu. Je dois dire que même dans mes pronostics de l'époque, je ne m'étais pas hasardé à voir Colette sur le podium. Mais je crois qu'elle a fait, sur le plan de la sagesse et de l'intelligence de course, la course parfaite.
Comment a été perçue dans la délégation française, parmi vous les journalistes, cette médaille?
C'était un grand moment très émouvant. Personne n'a oublié d'abord cette victoire et la manière dont elle était arrachée, l'étonnement qui étreignait Colette Besson elle-même, la ligne d'arrivée franchie, elle n'était pas sûre d'avoir gagné. Elle regardait tout le monde. Elle a vu ensuite que tout le monde l'acclamait. Et elle a compris très rapidement, en quelques secondes. Ça s'est passé en 2-3 secondes. Mais à un certain moment, elle a craint de ne pas avoir passé la ligne d'arrivée la première, ou du moins donné cette impression. Et puis ensuite, il y a eu ce moment très émouvant également du podium où Colette Besson a versé quelques larmes en écoutant la Marseillaise.
France Inter, il est 8h, Inter Actualité. Alors, Jean-Armand Ladidi, ça y est, nous l'avons, la médaille d'or.
Oui, sensationnel, merveilleux, stupéfiant. Colette Besson, championne olympique du 400 mètres. La jeune bordelaise, 22 ans, a battu sur le fil l'anglaise Bird. Son temps, 52 secondes. Nouveau record d'Europe, record olympique égalé. Bravo. De Mexico, l'un de nos envoyés spéciaux, Claude Médieu.
Depuis Micheline Ostermeyer, en 1948, aucune Française n'était montée sur la première marche du podium. Depuis Alain Mimoun, champion olympique du marathon à Melbourne en 1956, aucun athlète français n'avait obtenu de médaille d'or.
Vous pensez que Colette Besson était pionnière dans sa manière de faire ?
Oui, incontestablement, elle a donné des idées à toutes celles qui lui ont succédé, à commencer par Nicole Duclos, qui l'année suivante battait le record du monde avec elle, avec Colette, et devenait championne d'Europe devant Colette Besson. Je pense que les méthodes utilisées par Yves Durand-Saint-Omer, qui tendait à travailler à la fois la vitesse et la résistance, donc à accroître la vitesse par la résistance, ont fait des émules. Et dès les années 70, les athlètes de la RDA ont suivi presque aveuglément les méthodes utilisées par Yves Durand-Saint-Omer.
J'ai arrêté ma carrière en 77, et puis bon, ma vie de femme, elle s'est constituée après 77, et puis après, bon, ben je suis partie outre-mer pour suivre mon mari dans ses différentes mutations. Donc je suis partie en Afrique, aux Antilles, à Tahiti, à l'île de la Réunion, et puis entre-temps, ben, j'ai aussi deux filles qui ont maintenant 17 et 15 ans, qui sont adorables, qui font un peu de sport, mais pas forcément à haut niveau. Et puis voilà, donc je pense que j'ai une vie comblée, aussi bien en tant qu'athlète, professionnellement parlant. Ça a aussi été des expériences très enrichissantes d'être donc conseillère technique dans ces différents pays. Et puis bon, ma vie de femme, eh bien, elle se déroule parfaitement.
Tokyo, lorsque Jean-Pierre Doriola avait obtenu une médaille d'or. Là, nous avons de la chance, c'est que pour une fois, eh bien, ce n'est pas au cours de la dernière épreuve, le dernier jour, que l'on obtient une médaille d'or. Maintenant, je regarde Colette Besson, qui est émue aux larmes d'ailleurs, qui salue tout le stade maintenant. Elle est vraiment, elle ne sait plus très bien si elle doit rire ou pleurer. Elle envoie des baisers à tout le monde et elle regarde maintenant sa médaille en la tenant dans sa main droite. Et elle va disparaître maintenant, je suppose que ce soir au village olympique, ce sera une grande fête en l'honneur de la Bordelaise.
Merci à Colette Besson, à Robert Pariente et à Emmanuel Jouin de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Vous venez d'entendre Colette Besson au micro de Joël Spindel et de Nissoula sur Radio Bleu le 24 août 1997.